qu'on a un peu de mal à parler. Mais la Bible le traite, donc nous devons en parler. Parce que si la Bible en parle, c'est que nous avons besoin de connaître ces choses-là. Bien sûr, notre société, elle n'est pas, je ne sais pas de quoi on va parler, hein. On va parler de la sexualité. Voilà pourquoi j'ai dit, tiens, on a un jeune ici, hein, un célibataire. Et justement, dans ce chapitre 7, Paul, il parle justement des choses qui nous concernent. Il parle de quoi? Au célibat, à la sexualité du couple marié, au divorce, aux enfants issus du couple mixte, aux filles vierges qu'on hésitait à donner en mariage. Le chapitre 7, il est dédié à toutes ces choses-là. Et on voit Paul, après avoir traité longuement les divisions qu'il y a eu dans cette église, puis de la discipline, qu'est-ce qu'il fait? Il répond enfin aux questions posées par les Corinthiens. Par les Corinthiens. Hein? Et parce que Paul, il nous le dit, cet premier verset, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. » Donc, c'est des choses qu'on lui avait demandé d'en parler, hein, et de toute évidence, hein, c'est toutes ces questions, c'est que dans l'Église, ils en avaient discuté. Et alors, comme ils avaient leur père spirituel, Paul, qui était l'apôtre, alors on leur a posé la question de ces choses-là. Voilà pourquoi, au premier verset, il dit, voilà, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Les sujets traités dans ce chapitre, un peu comme je vous l'ai dit, hein, c'est très important. Hein, c'est les mariages. On va en parler du mariage. Les viandes sacrifiées aux idoles. La femme dans l'église. Et aussi, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est la sexualité. Car des fois, même en étant chrétien, on se trompe sur ces choses-là. Mais la Bible, il y a des gens qui ont peur d'en parler. Mais vous savez, si Dieu nous a donné, nous a créé comme ça, c'est parce que le souhait de Dieu, c'est notre bonheur. C'est notre plaisir. Et Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, la première chose qu'il a dit, c'est quoi? Soyez féconds. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Voilà pourquoi ce chapitre-là, c'est très important. Et vous savez, on aborde les versets que Paul cherche à rétablir l'image, hein, l'image de la pureté dans la sexualité, parce qu'à cette époque-là, la sexualité, elle était dénigrée, même dans les églises, et surtout à Corinthe, parce que comme je vous ai dit, Corinthe, c'était l'endroit où il y avait le temple de Vénus, et dans ce temple, il y avait les prostituées. Et alors les gens, ils allaient pour adorer, mais en même temps, ils allaient avec les prostituées, chrétiens ou pas. Voilà pourquoi Paul, il essaye de remettre en place toutes ces choses-là. Et vous savez, hein, ceux qui ont vécu une sexualité illégitime, qu'est-ce que j'appelle illégitime? C'est-à-dire, avant le mariage, c'est illégitime. Adultère, l'homosexualité, inceste, viol, attouchement, ils sont parfois dégoûtés de cela, même s'ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par là et ils ont une image détraquée de cela. Voilà pourquoi Paul, hein, et ces gens-là, ils rejettent l'idée même de la sexualité. Vous savez bien que l'Église catholique, elle dit, bon, sexualité, oui, mais juste pour procréer. Et c'est ça que nous avons besoin de la parole. Parce que la parole, elle nous dit que la sexualité, c'est quelque chose que c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, si Dieu nous l'a donné, c'est quelque chose de bien pour l'homme, la femme, pour le chrétien. Voilà pourquoi au premier verset, et parle aussi de, du célibat, des célibataires. Est-ce que les célibataires, ils se souviennent avant qu'ils ne soient chrétiens? Est-ce qu'ils pouvaient avoir des relations sexuelles avant le mariage? J'ai eu des célibataires qui sont venus. Est-ce que je peux embrasser un garçon? Est-ce que je peux le caresser? Est-ce que je peux lui faire un câlin? Mais qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'un garçon et une fille, ils se touchent?
Aïe.
Il y a Salomon, il a dit quoi? Ne réveillez pas l'amour qui dort. Et c'est les célibataires surtout qu'ils ont ces difficultés. Et Paul, il leur dit à eux, hein, au verset 26 et 27, il parle des calamités présentes, il parle des célibataires. Ils sont dans la calamité. Mais comme je vous ai dit, le premier verset qu'on va voir, c'est le chapitre 7, verset 1, et verset 6 à 7. Voilà ce qu'il dit Paul. Passons à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes, car on lui avait posé la question. Pour un célibataire, est-ce qu'il est bon de ne pas toucher des femmes? Et Paul, vous savez bien que toucher une femme, hein, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Hein? C'est pas toucher, ici le mot, ce n'est pas toucher, hein, mais c'est pour euphémisme, pour parler de relations sexuelles. C'est ça. Hein? Et Paul, il disait que c'est pas anormal. Pas pour un célibataire, parce qu'il faut qu'il soit marié, mais c'est pas anormal que l'homme et la femme, ils aient des relations sexuelles. C'est normal. Et vous savez, dans la Bible, les gens qui restent célibataires aujourd'hui, les célibataires, on les pousse au mariage. On les pousse au mariage, on les pousse à se baptiser, hein, à faire, comment on appelle ça, le pacte, hein, d'être ensemble, sans se marier. Il y a tellement de plaisir dans ce monde qu'ils les poussent même. Ils les poussent même. Voilà pourquoi... Être célibataire, hein, eux ils disaient, non, célibataire c'est pas bon, il faut pas toucher la femme. Mais Paul il dit, être célibataire c'est bon. C'est bon être célibataire. Et justement, voilà pourquoi j'ai dit, tiens, on a ici un célibataire. Et Paul il parle de ces choses-là sur les célibataires. Hein? C'est la première chose qu'il discute avec eux, c'est sur les célibats. Et il y a dans ce chapitre quatre choses à propos des célibataires. Premièrement, il dit que les célibataires, être célibataire, c'est un don de Dieu. Il y a des écrivains qui disent, Oscar Wilde, vous connaissez, hein, a résumé un peu de mots les points de vue du plus grand nombre. Les célibats est la seule perfection sexuelle connue. Au premier siècle, il y a eu aussi les rabbis et les hasards. Ils disaient, un homme qui n'a pas de femme n'est pas véritablement un homme. Ça, c'est contre les célibataires. Hein? Hein? Et le Talmud dit encore, l'homme qui n'est pas marié à 20 ans vit dans le péché.
À 20 ans. À 20 ans.
Ça, c'est le Talmud. Hein.
C'est vous les jeunes. Hein.
Ça, c'est le Talmud. Hein. Hein? Et dans le contexte du Nouveau Testament, le Nouveau Testament présente le célibat sous un jour positif. Positif. Et justement, Paul en parle au verset 7-7. Encore 7-7. Regardez ce qu'il dit. 7-7. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ici, Paul dit que c'est un cadeau de Dieu. Et Jésus le dit, aussi, dit la même chose dans Matthieu 19, vous vous en souvenez. Il le dit, il parle des eunuques. Il y a des eunuques qui décident, non, des eunuques, donc des célibataires qui ne sont pas, qui décident eux-mêmes de ne pas avoir de relations sexuelles. Il y a ceux qui le sont devenus parce qu'on on l'a castré. Voilà. Mais il dit, mais ceux qui le deviennent, pour Paul, il dit, c'est une bonne chose, pas eunuque, hein, mais qu'il reste sans relation. Sans relation. Et c'est ce qu'il dit. Et lorsque Paul il qualifie les célibats des dons, il ne parle pas d'une capacité particulière. Oui, moi je peux. Non, mais il parle d'un état. Un état. Être célibataire, c'est un état. Hein? C'est-à-dire qu'il parle plutôt de comment la personne qui est dans cet état-là, célibataire, qu'il peut régler. Hein? Et voilà pourquoi Paul, plus loin, il dit « Je ne me laisserai pas asservir. » Et dans le chapitre 6, hein, il dit « Tout m'est permis. » En tant que chrétien, tout nous est permis. Tout nous est permis. Mais, plus loin, il dit « Mais tu n'es pas utile. » Voilà pourquoi, en tant que chrétien, on peut dire « Oui, ce qui fait ce que les gens font dans le monde, nous pourrions le faire aussi. Mais quelle utilité nous en tirerions ? » Voilà pourquoi Paul dit, j'aimerais bien que tous y soient comme moi. Paul, est-ce qu'il était marié, Paul ?
Non. Non.
Non.
Ben, il dit que non.
Ben, Paul, il était marié. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Dans Acte. Vous vous souvenez que Paul, il faisait partie du Sanhédrin. Et Paul, il avait voté avec le Sanhédrin pour persécuter les chrétiens. Sauf que pour entrer dans le Sanhédrin, il fallait être marié.
Oui, mais Aldo, là, donc au verset 7, il dit le contraire.
Il dit quoi ?
Au verset 7, il dit quoi ? Je voudrais que tout le monde soit comme moi. Donc...
Mais oui, attends.
Je vais trop vite.
Pardon. Attends.
Pardon.
Il était marié. Ou il était veuf. Ou sinon, lorsqu'il s'est converti, sa femme... Donc, il dit, dans l'état où il est maintenant, avec le Seigneur... Il dit, j'aimerais que tout le monde y soit comme moi. Pourquoi ? Parce que Paul, il avait dans sa tête une seule chose, c'est servir le Seigneur. Il ne cherchait pas à avoir. Mais plus loin, il le dit, j'aimerais que tous votre... Mais, si vous n'arrivez pas à vous garder, mariez-vous.
Parce que si c'est pas sans doute sa décision était... Et issu d'un échec de les mariages.
D'ailleurs, pourquoi Paul dit soyez tous comme moi ? Parce qu'il n'avait pas de femme. Ou il était veuf, parce que marié, il était marié. Il appartenait au Sanhédrin, il avait voté, et dans la loi juive, pour être dans le Sanhédrin, il fallait être marié. Voilà, donc il avait voté pour persécuter les chrétiens. Alors, il est parti pour persécuter les chrétiens à Damas, il y arrivait quoi ? Conversion. Et ça se peut que sa femme, il l'ait quitté après. Ça, on ne le sait pas. Mais une chose est certaine, plus loin, il en parle, que si un chrétien, il est marié avec une femme non chrétienne, il ne doit pas la quitter ou vice versa, mais il doit rester avec. Mais si la femme ou l'homme il désire s'en aller, laisse-la partir. Et c'est exactement ce que Paul a fait une fois qu'il était converti. Mais marié, il était marié. Parce qu'encore une fois, vous regardez dans Acte, je crois que c'est dans Acte 19, hein, je vais le retrouver, hein, qu'il avait voté hein, dans le Sanhédrin pour ça. Je vais vous donner la référence. Et à cause de ça, il était parti, mais dans, sur la route de Damas, conviction. Alors, la femme, est-ce qu'elle s'est barrée? Parce qu'il ne voulait pas rester avec lui. Donc, et plus loin, il en parle de ceux ou celles qui sont mariés avec un chrétien, un non-chrétien, un non-croyant. Ils peuvent, normalement, ils doivent rester. Il ne faut pas que ça parte de lui. Il faut que ça parte de l'autre, de l'incroyant. Si ça part de l'incroyant, elle s'en va, il faut la laisser. Et il peut se remarier. Pourquoi? Parce que c'est de l'autre côté. Lui, il ne rentre pas. Mais on va en parler. On va parler tout à l'heure. Mais il dit, célibataire, c'est un don. Et les célibataires aussi, ils présentent des désavantages. Plus loin, il en parle. Quels sont ces avantages? Pourquoi? Le célibataire, il y aura des tribulations, il y aura des tentations dans la chair, parce que c'est normal. C'est normal. C'est normal. Vous vous souvenez, en Amérique, il y a eu une association de jeunes célibataires qui s'étaient mis dans la tête, c'était des chrétiens, hein, qui se disaient aucune relation sexuelle avant le mariage. Et automatiquement, ils avaient les amis, ils avaient d'autres gens. Et qu'est-ce que c'est qu'ils entendaient autour d'eux? Mais comment? T'as pas de relation? Tu vois pas, il y a cette fille ou ce garçon, là là, mais pourquoi t'es comme ça? Voilà, c'est des afflictions, c'est des moqueries. Et comme Paul le dit, il y a des avantages. On a le Saint-Esprit qui aide ces gens-là. Et en plus, avec l'aide du Saint-Esprit, ils n'ont pas les mêmes préoccupations de ceux qui sont mariés. Parce qu'un marié, quelqu'un qui est marié, il pense à quoi, là, premièrement? Ben, à sa famille, à ses enfants. Tandis qu'un célibataire, il est seul. Et alors il s'est dit, non, je vais me dédier au Seigneur. Et c'est ça, voilà pourquoi il dit que c'est des avantages. Hein, c'est des avantages. Et au verset 28, il dit, beaucoup de tribulations dans la chair. Dans la chair. Voilà pourquoi Paul, il écrit au verset 8, les célibataires, ils auront beaucoup de tribulations dans la chair. Mais au verset 28, il dit, je voudrais vous les épargner. Je voudrais vous les épargner. Comment est-ce que peut nous avoir? En leur disant que, oui, célibataire, peut-être qu'il va y avoir des privations, des tribulations, mais dans leur cœur, dans leur être, ils auront une seule et unique pensée, et c'est celle du Seigneur. Une seule et unique préoccupation, c'est celle du Seigneur. Et c'est ça que Paul, il leur dit, voilà, je voulais vous épargner. Que vous soyez comme moi, je me donne entièrement au Seigneur, je n'ai pas d'autre pensée, et j'aimerais que vous soyez comme moi. Et c'est vrai que celui qui n'est pas marié, comme il dit verset 32 et 34, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, et il est partagé. Et il est partagé. Il y a des couples chrétiens que des fois, voilà, le chrétien ou la chrétienne, il pense à sa famille, et voilà, il y a des empêchements. Au lieu de donner la primauté au Seigneur, voilà pourquoi c'est très important de se dire, non, je suis du Seigneur, je me donne entièrement au Seigneur, je ne cherche pas les plaisirs, bon, ils sont là, mais il y a ce verset aussi d'un Corinthien qui nous dit, aucune tentation qui ne soit pas humaine Le Seigneur, il est là. Toute tentation, il peut être balayé. Voilà pourquoi Paul, il parle de toutes ces choses. L'essentiel de la responsabilité chrétienne, c'est de marier, c'est de prendre soin de leur conjoint et de leurs enfants. Mais le célibataire, il peut se donner entièrement, entièrement au Seigneur. Hein? Ils choisissent, il y en a encore une fois qui choisissent délibérément. Combien il y a de frères qui ne se marient pas? Justement parce qu'ils ne veulent se donner qu'au Seigneur. Oui, être célibataire, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous y sommes tous passés. Hein. Vous savez, lorsque Dieu a créé Adam, hein, il était seul dans le jardin d'Éden. Il lui a dit quoi? Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Il a besoin de quelqu'un. Je lui ferai un aide semblable en 2:18. Ève, elle a été créée pour répondre aux besoins relationnels d'Adam et aussi pour répondre aux souhaits de Dieu. Procréer. Multipliez-vous. Comment peut-on se multiplier? En ayant des relations sexuelles. Et pas apporter d'autres enseignements dans lesquels les relations sexuelles y sont vues comme quelque chose de mauvais. Bien sûr, dans un couple, on doit avoir les relations sexuelles et pas se laisser entraîner par cette société qui nous demande, qui demande toujours plus. Et il faut aussi respecter l'autre. Il y a peut-être des choses que l'un ou l'autre il aimerait partager, mais il faut respecter l'autre qui ne le souhaite pas. Et c'est ça l'amour chrétien, n'est-ce pas? Le respect de l'un et de l'autre. Et Paul, il nous le dit, hein, mais la chose qu'il dit aux célibataires, c'est fuir l'immoralité. Il faut la fuir. Et voyant la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas la chose qu'ils font. Hein. Au contraire, ils se jettent dessus. Et tout ça, pourquoi? Pour un plaisir partagé, momentané. Vous savez, on peut avoir cette joie sur les moments, mais une fois que c'est fini, ben, les circonstances. On dit ça, la joie par les circonstances. Une fois que la chose est passée, c'est terminé. Et vous savez aussi, le célibat n'est pas permanent. Ça ne dure pas toujours. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant que chrétien, un jour, nous allons avoir un époux. Et cet époux, c'est Jésus-Christ. Pour le moment, le Seigneur a dit, tu décides d'être célibataire, de te donner entièrement à moi, sache que la chose ne sera pas permanente. Un jour, tu vas être marié et tu vas te marier avec moi. Et c'est ça que Paul il veut nous dire dans ce chapitre 7. Surtout pour les célibats, parce qu'il était vu comme quelque chose de mauvais. Des mauvais, parce qu'encore une fois, ils étaient dans une société mauvaise, une société de plaisirs. Ils étaient mal regardés, ceux qui n'avaient pas de contacts sexuels. Mais Paul le dit, c'est bon d'être comme ça. J'aimerais bien que vous soyez tous comme moi. Voilà pourquoi Paul, il parle premièrement de ces célibataires. Pourquoi? Parce qu'il veut. Et il y a une chose que Paul il dit avec tous ses enseignements. Regardez au verset 6 ce qu'il dit. 7-6. Il dit, je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je dis ça par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Et ensuite il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais Paul, c'est quelque chose que Paul il répète dans tout le chapitre. Et au verset 10, il dit, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Et au verset 12, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis ça. Et au verset 25, elle dit, « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. » Au verset 25, il nous dit quoi, Paul, ici hein? Et au verset 40 aussi, il dit, « Suivant mon avis, et moi je crois avoir l'Esprit de Dieu. » Quelqu'un dira, « Mais ce n'est pas un commandement du Seigneur. » Oui, mais c'est Paul qui le dit. Et Paul, il avait l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce que lui, il le répète, ça, le Seigneur, il l'a dit. Non, ça, il ne l'a pas dit. Mais moi, je vous le dis, parce que je suis apôtre. C'est moi qui a fondé cette église, et en tant qu'apôtre, j'ai l'autorité, j'ai cet esprit qui me parle, j'ai cette révélation. C'est pas parce que le Seigneur ne l'a pas dit que moi, en vous le disant, la chose ne soit pas vraie. C'est ça que Paul, il veut que les gens sachent. Et vous savez, on peut se demander des fois comment est-ce qu'on peut avoir une pureté sexuelle, comment la développer cette pureté sexuelle, parce que c'est pas facile. Mais premièrement, j'ai mis ici, rejeter tout ce qui éveille les désirs sexuels. Rejeter tout ce qui éveille les désirs sexuels. C'est ça. Si lorsqu'il y a une pensée ou autre chose, il faut la balayer. Ne pas se fermer dessus. Malheureusement, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est très difficile que notre tête, même la tête des chrétiens, ne se mette pas en mouvement. Vous vous en souvenez ce qu'il disait Luther? Voilà, il disait, on ne peut pas empêcher l'oiseau de se poser sur notre tête.
On
ne peut pas l'empêcher, mais on peut l'enlever. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelque chose qui nous touche dans nos désirs, dans nos plaisirs, il faut ne pas y penser, il faut enlever les yeux là, il ne faut pas y penser. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui arrive si seulement on regarde et on a des pensées? Là, Jésus, il nous l'a dit, n'est-ce pas? Il nous l'a dit que faire pécher, ce n'est pas l'acte, mais c'est juste penser. Le penser seulement. Voir une belle fille, une fille et voir un garçon, que j'aimerais. Voilà. C'est ce qu'on a déjà fait. C'est ce qu'on a déjà fait. C'est Jésus qui nous le dit. Hein. Et deuxièmement, c'est éviter l'oisivité. Être toujours occupé. Parce que lorsqu'on s'arrête, avoir une vie bien remplie. Car lorsque on commence à se laisser aller, ces choses-là, elles nous envahissent. Elles nous envahissent. Elles nous envahissent. Et troisièmement, je crois qu'il faut aimer et désirer Dieu profondément. Comme il disait David, hein, je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et c'est ça que Paul, il aimerait bien que tous ces gens qui à cette époque disaient que être célibataire, c'était une honte. Hein, lui, il dit, j'aimerais bien que vous soyez comme moi. À ne penser qu'au Seigneur. Voilà pourquoi c'est les hommes de la fin. Il faut que nous ayons constamment la pensée de Dieu. Si seulement nous ayons Dieu constamment dans notre tête, sinon on sait dire, tiens, le Seigneur peut venir à n'importe quel moment, on se comporterait différemment. différemment. Et c'est ça que Paul lui dit. J'aimerais que vous soyez comme moi. Il faisait quoi, Paul? Mais il nous a parlé de l'enlèvement. Il nous a dit que le Seigneur reviendra à n'importe quel moment. Il reviendra bientôt, là. Et c'est ça que, en tant que chrétien, nous devons vivre cet état-là. Et ça, c'était pour les célibataires. Hein? L'amour de Dieu, comme on dit, il chasse l'amour charnel. Si seulement nous pensons cela, l'amour charnel, il s'en va tout de suite. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, il nous remplit. Il nous remplit entièrement. Ça, c'était pour les célibats. Mais il y a au verset 2 et 5, regardez ce qu'il dit. Il dit: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre abstinence. Ben, voilà le célibataire, oui, mais...
par votre incontinence.
Voilà, exactement, c'est ça. Et ça veut dire quoi, incontinence? Mais voilà, les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés comme ça, vous savez, hein. Dieu nous a créés comme ça. Mais lorsque deux se marient, le jeune marié, vous savez, ils partent en lune de noces, mais voilà, ils partent tranquillement. Mais lorsqu'ils reviennent dans la société dans laquelle on vit, encore une fois, comme je dis, on voit toutes ces choses que la société y fait, là, toutes ces choses qui sont permises. Et des fois, même un chrétien ou une chrétienne se dit, mais pourquoi maman? D'aller plus haut, plus loin d'où il devrait. Voilà pourquoi, ici il le dit, le corps, hein, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement le mari n'a pas autorité. Et qu'est-ce que c'est qu'on entend aujourd'hui? Je suis libre de mon corps. Il y a même des gens qui font la grève de l'amour. Mon mari me traite comme ça, j'ai fait la grève. Paul, il nous dit toutes ces choses-là, le Seigneur. On n'appartient pas. Le corps de la femme, il appartient au mari. Et pareillement, et encore une fois, ici, il parle de l'acte sexuel. Attention, hein, n'allez pas plus loin. Ici, Paul, il parle de l'acte sexuel, parce que dans ce chapitre 7, il parle de cela, des célibataires, et ensuite, mariés. Hein? Il nous l'a dit, le verset 2, hein, que toutefois, pour éviter l'impudicité, voilà, parce que c'est difficile pour un célibataire de rester pur. Mais pour éviter cela, prends-toi une femme. Et avec elle, toutes ces choses sont terminées. Et c'est là que Paul lui va arriver. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari et pareillement autorité sur son corps. Ne vous privez point. Et c'est là que c'est le même mot qui a employé Jacques lorsqu'il dit aux riches, ne volez pas vos ouvriers. De ne pas le payer et quand il fallait. Hein. Et il dit, ne vous privez pas. Il va y avoir des moments dans lesquels l'un et l'autre décident ensemble pour prier, pour avoir une communion ou pour jeûner. Hein, parce qu'à cette époque-là, les prières et les jeûnes, ce n'était pas comme on le fait ici, 2 heures, 3 heures, un jeûne. Là, c'était 2 jours, 3 jours, 4 jours. Voilà pourquoi il dit, mais une fois que la chose est terminée, revenez pour éviter toute cette impudicité qu'il y a. Parce que vous êtes mariés. Et vous, vous vous devez l'un à l'autre. Ça peut arriver aussi que, qu'il n'y ait pas d'acte sexuel entre deux, là. Ils sont décidés de tous les deux. Mais que pour remplacer cela, ils ont autre chose. D'autres choses que le Seigneur il leur donne. Ils ont d'autres occupations pour glorifier Dieu dans leur vie. Encore une fois, comme on dit, l'acte sexuel, c'est des questions de, c'est des questions de 10 minutes. Hein. Et encore. Ou si ce n'est pas plus. Mais ça finit vite fait. Hein. Tandis que là, il nous dit, bon, on décide d'eux pour différentes raisons. Hein. Des fois, il y a la maladie, des fois, il y a autre chose, je ne sais pas moi, de l'un ou de l'autre. Et alors, on dit, bon, voilà. Hein. Et on se donne entièrement au Seigneur. Toujours en s'occupant de la femme, des enfants, de la maison, toutes ces choses-là. Voilà pourquoi, pour mettre les choses en place, il lui dit, non, la femme, le corps de la femme n'appartient pas à elle, mais il appartient au mari, et vice-versa. Voilà pourquoi il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin d'évacuer à la prière, puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà pourquoi il dit, j'ai dit ça par condescendance. Hein. Le Seigneur, il n'a pas parlé de ces choses-là. Mais Paul, il n'en parle en tant qu'apôtre. Donc, si c'est un apôtre de Dieu, hein, si c'est un envoyé de Dieu, c'est que l'Esprit lui a dit de dire ces choses. C'est pas parce que le Seigneur n'en a pas parlé. Que la chose, il ne doit pas être comme ça. Et il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Voilà, c'est un don de Dieu. Parce que si on arrive à vivre sans ça, c'est un don de Dieu. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas. Nous avons été créés comme ça. Mais tous ces désirs-là, nous pouvons les gérer avec l'aide de l'Esprit. Et c'est ça que Paul il nous dit. Et il nous dit que le plaisir sexuel est légitime, contrairement à ce que dit la religion catholique. Je ne dis pas le plaisir sexuel. Hein. Oui, le plaisir sexuel n'est pas, comme ils disent, juste pour procréer. Et vous savez, ça c'est quelque chose qui nous le disent très souvent hein, lorsqu'on parle des enfants. Oui, mais vous faites l'amour seulement pour avoir des enfants. Ils vous le disent parce qu'ils ont été enseignés comme ça. Mais nous avons la parole. Et vous savez, entre mari et femme, il y a ces moments-là. Vous en souvenez, Isaac et sa femme. Hein, lorsqu'ils ont été voir le roi, hein, et Isaac et Rebecca, oui, hein, et il lui a dit, bon écoute, on va là-bas, parce qu'il était une belle fille, il a dit, je vais là-bas, il a dit que tu es ma sœur. Et alors ce roi, Abimelech, voilà, et il aimait bien Rebecca, et il voulait la prendre. Et la nuit, il se lève, et qu'est-ce que c'est qu'il voit? Et il voit Isaac et Rebecca en train de se bécoter, là, voilà. Et alors il a dit, mais c'est pas ta sœur, pourquoi tu m'as menti? Ça pour vous dire que le plaisir sexuel est légitime. Il est même voulu par Dieu. S'il nous a créés comme ça, c'est parce que c'est bon pour nous. Et Dieu, il veut notre plaisir. Et vous savez, c'est un devoir du mari ou de la femme de donner du plaisir. Au mari et à la femme. Pourquoi? Parce que c'est ordonné par Dieu.
Il te dit qu'on vient pas longtemps, que tu as donné 10 ans de vie supplémentaire. 10 ans.
J'aimerais beaucoup plus en parler de ces choses, mais il y a des gens qui n'aiment pas entendre ces choses-là. Mais Dieu n'en parle. Est-ce que devons-nous nous taire? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites Et les gens, ils l'interprètent d'une façon. Un autre exemple pour mari et femme. S'il y a le mari ou la femme qui trompe, Jésus, il nous a dit que les divorces, c'est pour, sauf pour adultère, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous dit, Jésus. Mais si c'est le mari qui trompe, qui va coucher ailleurs, et à cause de ça, il y a divorce, est-ce que la femme doit subir ce que le mari a fait? C'est pas la faute de la femme, c'est le mari. Mais la croyance chrétienne, il va beaucoup plus loin que ça, comme il dit le monde. Tout de suite, t'es couché avec un autre, on divorce. Non, la croyance chrétienne de dire, voilà, tu as péché, tu as été ailleurs, bon, écoute, j'ai reçu le pardon de Dieu et je te pardonne. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a ceux ou celles qui te disent, non, c'est terminé. Mais il ne faut pas que la chose il soit des deux côtés. Parce que sinon, il rentre ce que Paul nous dit toujours, s'il y a divorce voulu par tous les deux, ou il n'y a pas l'adultère, alors là, Paul, il est clair. Tu ne dois plus avoir de contact avec femme jusqu'à ce que l'un ou l'autre est décédé. C'est ça la cause. Pourquoi? Il nous a dit que Dieu aborde les divorces. Il n'aime pas du tout. Mais dans un couple, il peut y avoir. À un certain moment qu'on ne s'entend pas. Au même que le mari ou la femme le tape. C'est rare que la femme le tape. Violence et tout ça. Hein? Voilà. Est-ce que la femme il doit rester avec son mari ou vice-versa? Non. Mais Jésus il dit seulement par adultère. Mais s'il y a cette violence envers l'un ou l'autre, voilà, séparation. Séparation. Mais par contre, s'il y a l'adultère, alors là, voilà, pardon, ou alors, si c'est trop difficile d'amener les pardons, les divorces. Les divorces. Et c'est ça que Paul... Vous savez, la sexualité d'un groupe, tout dépend de leur union. Tout dépend de leur façon d'agir, de leur façon de faire. Tout est là, hein, car il peut être remplacé pour quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur que d'avoir une communion constante et continuelle avec Dieu? Et c'est dans ces moments-là que le Seigneur nous donne encore plus la force. Encore plus la force. Et au verset 2, il nous est dit encore une fois, toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme. Si tu crois que tu ne peux pas y arriver, tu n'y arrives pas, alors marie-toi. Mais ne reste pas comme ça, ne va pas à droite à gauche. Parce que Dieu, il interdit de fréquenter une femme, de toucher une femme, si tu n'es pas marié. Mais c'est ça. Alors, si vraiment tu ne peux pas, marie-toi. C'est ce que Paul nous dit au verset 2. À cause des occasions de conduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. La sexualité au sein du mariage, il facilite la purité sexuelle. Pourquoi? Parce que je suis avec ma femme. Parce que vous savez, c'est les cordes de Christ qu'on a. Et alors, Paul, il nous a dit dans un autre endroit, mais pourquoi est-ce que tu sais que c'est le corps de Christ? Pourquoi est-ce que tu vas avec une prostituée? Parce que si tu vas avec une autre femme, c'est que ce n'est pas une prostituée, hein, mais c'est les péchés, quoi. C'est ça que Paul dit. Si tu n'arrives pas, marie-toi. Et au verset 3, il dit, que les maris rendent sa femme à ce qu'il lui doit. Et de même, la femme à son mari. C'est ce que j'aime bien ici, c'est ce qu'il lui doit. C'est un devoir. C'est un devoir. Ce qu'il lui doit. Paul exprime sans ambiguïté la notion du devoir sexuel. C'est un devoir. C'est un devoir. Hein? Et au verset 4, hein, il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Pas seulement un devoir, mais c'est aussi donner. Donner. Il va de pair avec ses données. C'est un peu Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il nous a donné son Fils. Et nous formons un corps. Et mari et femme, ils doivent en être ainsi. C'est-à-dire que aller même jusqu'à la mort pour l'un ou pour l'autre, comme il a fait le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur, il a mis côte à côte les époux et l'Église, n'est-ce pas? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Faire de donner tout. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il nous appelle à faire de même. Et encore une fois, verset 5, il nous le redit encore, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un compagnon. Il faut qu'il y ait une attention particulière. Il faut que se rappeler que nous devons, en tant que mari et femme, donner. C'est un devoir. C'est un devoir. Aujourd'hui, on entend, je suis maître de mon corps. Je fais ce que je veux. Hein? Une femme qui tombe enceinte, hein? Voilà, je ne veux pas cet enfant, je vais avorter. Je suis maître de mon corps. Voilà. Ça, c'est le monde. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Non, si tu es marié, ton corps ne t'appartient pas, et vice-versa. Il faut seulement faire les choses que Dieu il nous dit. Je parle en tant que chrétien, hein, parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien, hein, ou chrétien, hein, ces choses-là, ils passent là, ils sortent de l'autre côté. Hein. Mais ces choses, pourquoi? Parce que ça arrive même dans les chrétiens. Il y a des églises qui marient les homosexuels. Il y a des églises qui marient les divorcés. Et la femme, elle est vivante. C'est des choses que la Bible condamne. Et si on est chrétien, nous devons faire attention à ces choses. Et voilà pourquoi Paul, il en parle. Et c'est des choses que nous devons prêter de plus en plus d'attention, car encore une fois, on vit dans un monde qui n'est pas notre monde. Un monde qui vit dans le plaisir, dans le désir. Regardez la publicité tout autour de nous, la télé, dans le métro. L'autre fois, ils avaient entendu cette jeune fille, il était en mini-jupe, et ils l'ont tabassé là. Ils disent, je peux m'habiller comme je veux. Ben oui, mais un peu de respect pour ceux qui sont autour de toi. Mais la société, ils s'en foutent de ça. T'as qu'à regarder en Italie, on dit, guardare non toccare. Regardez et pas toucher. C'est ça aujourd'hui là. Voilà, en tant que femme, je m'habille comme je veux.
Souvent on dit en France, tout ça qui est fait et voilà qui est bien.
C'est ça, voilà pourquoi le Seigneur il a dit, ça suffit juste de regarder. Juste de regarder. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à cela. Hein? Et il nous est dit hein, que l'assurance, en Corinthiens 10, 13, on a l'assurance qu'aucune tentation, si nous restons auprès du Seigneur, il va nous faire chuter. Voilà ces six premiers versets qui parlent que Paul il remet en place cette sexualité qu'il était complètement à la dérive. Il met les choses en place